Session de rentrée, les trois sagesses, Père Marie Dominique Philippe, 16 septembre 1997, troisième cours à Saint-Jodard.
Alors je réponds d'abord à quelques questions. Quel est le sens du mot sagesse, sapientia? Comment le philosophe peut-il en parler? Comment la sagesse se distingue-t-elle de la prudence? Le mot sagesse implique la connaissance philosophique, puisqu'on est en philosophie, de la cause première. De sagesse que lorsque j'ai atteint au point de vue philosophique l'existence de l'être premier qui est le créateur, qui est notre créateur. Tant que je n'ai pas atteint la cause première, je ne peux pas avoir une connaissance de sagesse. La sagesse apparaît quand mon intelligence atteint l'existence de l'être premier, cause finale de tout ce qui est. Et c'est à partir de cette connaissance que je peux avoir un jugement de sagesse. C'est quand je regarde les réalités dans la lumière de la cause première que j'ai découvert. Je prends l'exemple. Je découvre progressivement l'existence nécessaire d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Puisque le mot Dieu n'est pas un mot que le philosophe a découvert. Les traditions religieuses ont découvert avant. C'est pour ça que dans la laïcité, on ne veut pas parler de Dieu. Parce que ça repose sur les traditions religieuses. Mais il y a des mots qui ont été découverts par les traditions religieuses, par les traditions humaines, puis il y a des mots que le philosophe a découverts et précisés. Le mot « être » n'est pas donné par les traditions religieuses, mais par la philosophie. La philosophie a parlé de l'être et du devenir, de la distinction de l'être et de la vie. Le mot substance, le mot acte, ce sont des mots que le philosophe a découverts progressivement et qui sont portés par la philosophie. Le mot âme est un mot qui a été découvert par les traditions religieuses. Et le philosophe s'est posé la question, est-ce que ce mot, et c'est toute l'œuvre de Platon, est-ce que ce mot est un mythe, ou est-ce que ce mot est une réalité? Et le mythos et le logos, comme dit Heidegger, est-ce qu'au fond, de fait, le mot âme est un mythe? Ou est-ce que le mot âme est une réalité, un principe de vie? Toute l'œuvre de Platon est d'introduire l'âme donnée par les traditions religieuses au cœur de la philosophie. Et tout l'effort d'une philosophie positiviste moderne et de chasser l'âme de la philosophie. Merleau-Ponty. Le premier Merleau-Ponty. Mais il est mort avant d'avoir réhabilité complètement l'âme dans la philosophie. Et le premier Merleau-Ponty supprime l'âme. Il n'y a que le corps. C'est évident que le mot corps n'est pas venu des traditions religieuses. C'est la philosophie. Oui, mais c'est très intéressant ça, de se poser ces questions-là. C'est pas directement de la philosophie. C'est une sorte de critique sur le langage. Et c'est intéressant de faire cette critique sur le langage pour comprendre un peu la signification. Oui. Alors, le mot « sagesse » est un mot qui relève de la philosophie, la découverte de la cause ultime. Tant qu'il n'y a pas découverte de la cause ultime, il n'y a pas de sagesse. Les mathématiques ne sont pas une sagesse, parce qu'il n'y a pas la découverte de la cause première, la découverte de relations nécessaire. Alors, sagesse, à la différence de philosophia, qui est l'ami de la sagesse. Vous voyez, la philosophie, c'est de montrer qu'il y a une recherche de sagesse. Parce qu'on est l'ami de la sagesse, philosophia. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc le philosophe est l'ami de la sagesse. Quand l'homme n'est plus l'ami de la sagesse, il n'est plus philosophe. Il se sert d'un mot qui est un mensonge. Aujourd'hui, les philosophes ne sont plus philosophes, ils ne sont pas amis de la sagesse. Et c'est terrible ces choses-là. C'est là qu'on voit que ces mots, on les garde, on parle encore de philosophie, mais on ne parle plus du tout de sagesse. Et les philosophies contemporaines, prenez Sartre, c'est pas un ami de la sagesse. Comment voulez-vous être un ami de la sagesse quand on a une idéologie athée? Dieu n'existe pas. La sagesse ne consiste pas à connaître l'homme, mais à connaître la source de l'âme, le Créateur. C'est par la distinction de l'âme et du corps que je me vois conduit vers l'existence d'un être premier, esprit. Donc, une fois que j'ai découvert l'existence de Dieu, je peux regarder tout dans la lumière de Dieu. Je regarde l'homme comme la créature la plus parfaite. Comme philosophe, je peux expérimenter. Le théologien, lui, partant de Dieu, va montrer que la créature la plus parfaite, c'est l'ange. Et qu'avant l'homme, Dieu a créé des anges. Mais le philosophe ne peut pas dire ça. Parce que je n'ai pas l'expérience philosophique de mon ange. À quel moment le philosophe peut-il parler de la sagesse? Quand il découvre l'existence nécessaire de l'être premier. Créateur. Comment la sagesse se distingue-t-elle de la prudence? La prudence est quelque chose que j'acquiers, du reste, comme la sagesse philosophique. Mais la prudence consiste à découvrir ce pourquoi je suis fait. Quelle est ma finalité? Si je ne regarde pas ma finalité, je suis souverainement imprudent. philosophiquement, je découvre progressivement que l'homme a deux finalités. L'amitié est une certaine finalité, et l'amitié me donne un certain bonheur. Quand je peux avoir confiance totale en quelqu'un, je dis « tu es mon ami ». C'est très reposant, et c'est merveilleux de voir ce lien qui se crée au point de vue de l'amitié. Je rencontre quelqu'un en qui je peux avoir totale confiance. Je rencontre quelqu'un qui est un autre moi-même. Alors, l'amitié joue ce rôle très très important. Et puis la contemplation de Dieu, autant qu'elle est possible ici sur Terre, philosophiquement parlant. Donc la prudence consiste à ordonner ma vie vers ce qui est ma fin. Parce qu'il n'y a pas de bonheur en dehors de ce qui est capable de me finaliser. Il n'y a pas tellement de choses qui sont capables de me finaliser. Les mathématiques ne peuvent pas me finaliser. Si grandes que soient les mathématiques, elles ne peuvent pas me finaliser. Je ne peux pas être ma propre fin. La fin, c'est ce qui m'apporte mon bonheur. Ce qui m'apporte, ce qui suscite en moi un amour spirituel. Et de découvrir quelqu'un qui peut être pour moi source d'achèvement. Quelqu'un qui m'agrandit. L'ami, c'est toujours celui qui m'agrandit. Qui me permet de sortir de moi. D'aimer, et l'amour est extatique. L'amour me permet de me dépasser, et c'est pour ça que l'amour me fait vivre, parce qu'il me permet le dépassement. C'est l'oxygène de ma vie. Et quand je ne peux pas avoir d'amitié, j'étouffe. Et c'est comme dans une chambre, on n'aère jamais. L'air est contaminé. Je vis dans le conditionnement. Et il n'y a pas la fin. Et le conditionnement est toujours quelque chose qui m'étouffe. Quand le conditionnement n'est plus finalisé, j'étouffe. Et je pourrais en mourir spirituellement. Quand la finalité n'est pas là présente. La finalité humaine, c'est la découverte de l'amitié. La découverte de la contemplation. Les deux fins. Et la sagesse consiste à découvrir que au-delà de l'amitié, il y a contemplation de Dieu. À ce moment-là, je passe du régime prudentiel au régime de sagesse. Et je comprends que la prudence, c'est très important pour ma vie humaine, mais ce n'est pas suffisant. Parce que l'homme est fait pour plus grand que lui. L'homme est fait pour se dépasser. Et quand l'homme ne peut plus se dépasser, il réfléchit sur lui-même, il s'atrophie, il s'étouffe. Mais la seconde question, c'est, pouvez-vous préciser le lien entre amitié et sagesse? Vous voyez là, la sagesse et l'amitié me permettent d'atteindre mes deux fins humaines. Il n'y en a pas d'autre. Philosophique au mois de fin juin, début juillet. personne humaine, je peux découvrir quelque chose qui est plus grand que moi. Et c'est lorsque je découvre ce quelque chose qui est plus grand que moi, que je peux dire à quelqu'un, tu es mon ami. Et encore une fois, dans tout homme, il y a quelque chose que je peux découvrir, son âme, qui possède quelque chose de plus que moi. Mon âme, qui a des qualités, a des limites, parce que mon âme est créée. Parce que mon âme est créée, elle est limitée. Et ça, je m'en aperçois. Et il y a l'imagination passionnelle, orgueilleuse, qui peut dire, regardez-moi, je suis l'homme. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait dire ça, Jésus. Mais ça, philosophiquement, je ne peux pas le dire. Philosophiquement, je peux dire qu'une seule chose, c'est que je n'ai jamais rencontré un homme qui soit l'homme. Ce serait fabuleux. Alors on dit ça, hein, amicalement, imaginativement, je découvre enfin en toi l'âme sœur que j'ai cherchée toute ma vie et tu es pour moi ma fin. Mais ça, on sait que c'est imaginatif. Ça dure un petit moment, un petit lampion. Puis après, on s'aperçoit que cet ami extraordinaire, il est aussi limité. Je découvre qu'il n'est pas amour pur. Il est un homme qui a son individualité, ses limites. Son égoïsme, limité dans son intelligence, limité dans son cœur. Alors l'amitié est un absolu au niveau humain, mode humain. Mais l'homme ne peut être parfaitement lui-même qu'en se dépassant. Il découvre celui qui est avant lui, de toute façon. Celui qui était avant lui, dans le temps. Dieu, son créateur. Et à ce moment-là, découvre ce qu'est la sagesse. Il voit comment l'amitié le conduit à la sagesse. Parce que l'ami a éveillé en moi un feu, l'amour. Et cet amour spirituel qui atteint dans l'ami, la personne de l'ami, voudrait que l'ami soit l'absolu. Et on s'aperçoit qu'il n'est pas l'absolu. Et que l'ami m'oblige de poser la question. Est-ce que l'existence de mon ami n'est pas pour moi un appel vers Dieu, vers l'existence d'un être premier ? Mon ami n'est pas source de mon être et de ma vie. Il peut être source de mon amour. C'est vrai. C'est grâce à mon ami que je suis l'ami. Et c'est pas si mal d'être l'ami. D'être source de bonheur pour mon ami. Un ami, quand il rencontre son ami, lui dit quelle joie de te rencontrer. Surtout quand il ne l'a pas vu depuis longtemps. Parce que c'est l'ami. Mais s'il se pose la question, un très bon ami. Je peux mourir. Je ne meurs pas dans son cœur, mais je peux mourir dans la réalité. Si mon ami était source de ma vie, je ne mourrais pas. On mourrait les deux ensemble. Mais c'est la grande astuce de l'euthanasie. Vous avez peut-être vu, toi, le petit film qui est complètement stupide sur l'euthanasie et qui est amusant de stupidité. On voit un vieux ménage. Regarde, on vieillit. On va bientôt mourir. Ah, il faudrait qu'on meure le même jour et la même heure. Ce serait tellement plus beau. Tandis que si tu meurs avant moi, ça n'ira pas. Alors on va mourir en même temps si tu veux. Il n'y a rien de plus beau. C'est le feu d'artifice. On va mourir en même temps. Alors vous voyez, ça, c'est ce qui montre que l'euthanasie montre combien l'amitié est source de vie. L'ami n'est pas seulement source d'amour, mais il est source de vie. Il est source de vie parce qu'il vaut mieux mourir en même temps. Extraordinaire comme raisonnement. Hein. L'acte propre de la sagesse, c'est la contemplation. Oui. Vous nous parlez souvent de la contemplation au niveau philosophique, au niveau mystique. Mais qu'est-ce que la contemplation au niveau de la théologie acquise? Je veux pas m'arrêter trop longtemps parce que je suis ici avec des philosophes ou des apprentis philosophes. Je suis ici avec de futurs théologiens. Il y en a déjà qui ont fait un peu de théologie. C'est normal. Mais c'est très vrai. Les deux contemplations qui me sont données le plus immédiatement, c'est la contemplation mystique, si je suis chrétien, et la contemplation philosophique, si je suis intelligent. Oh, je présume que vous êtes chrétien et que vous êtes intelligent. Alors, si vous êtes chrétien, vous avez le don de sagesse, et très vite, vous comprenez ce qu'est le Christ pour vous. Il est l'ami. L'ami parfait. Et celui-là, il ne meurt plus. Mais il est mort pour moi. Et c'est dans sa mort qu'il m'a enfanté à l'amitié divine. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. La contemplation chrétienne, l'idée qu'on comprend qu'on est chrétien. La contemplation philosophique, c'est la soif de vérité qui m'y conduit. Je ne peux pas m'arrêter avant d'avoir découvert celui qui est ma source. Et tant que je ne l'ai pas découvert, je suis un orphelin dans l'ordre métaphysique. Je suis un orphelin dans l'ordre de l'être. Je n'ai pas encore vu où est mon père, ma mère, dans l'ordre de l'être. C'est en découvrant l'existence de Dieu que je découvre ma source, la source de mon âme, de ma vie spirituelle, de ma vie tout court, de mon être. Ces deux contemplations sont données en premier lieu. Et grâce à ces deux contemplations, il y a une autre contemplation que je peux acquérir progressivement. La contemplation théologique qui consiste à partir du Créateur, à partir martyr du Rédempteur, à découvrir mes deux sources et l'harmonie qui existe entre ces deux sources. Et la contemplation théologique consiste à saisir l'harmonie entre ces deux sources. À contempler qu'il est merveilleux de voir comment mon Créateur est devenu mon Sauveur. C'est là où la contemplation théologique est la plus parfaite. Je me souviens fait passer à Nicodème pour montrer que cet homme plus âgé que lui, Nicodème était sûrement beaucoup plus âgé que Jésus, et que Jésus, le théologien par excellence, lui fait passer un examen parce que Nicodème est venu auprès de lui pour découvrir la vérité. Et Jésus lui montre tout de suite ce qu'est la contemplation théologique. Cette harmonie parfaite entre la création et la rédemption. pouvez pas faire de théologie si vous n'atteignez pas la sagesse philosophique. Donc, durant les années consacrées à la philosophie, vous vous préparez. Sagesse philosophique en acte, étant chrétien, tous ceux qui n'ont plus cette sagesse philosophique en acte, tout en étant chrétien, ne peuvent pas faire de théologie sérieuse. On voit tout de suite les erreurs et qui veulent organiser un plan d'études. Parce que seul l'habitus de sagesse théologique permet d'ordonner. C'est très important cela. N'est qu'à partir d'une contemplation théologique, puisqu'il est acquis, et que l'acte propre de l'habitus de sagesse théologique, c'est la contemplation. Et donc, il est acquis par la contemplation. Des quantités de théologiens ne contemplent plus. C'est pour ça que leur théologie n'est plus une sagesse. C'est un mélange de science. Et comme souvent, ils ne comprennent plus que la théologie est une sagesse subalternée à la sagesse infuse du Christ. Ils ne comprennent plus ça. Alors, on s'appuie sur d'autres sciences non subalternées, l'exégèse, l'histoire, qui ne sont pas des sciences au sens propre, qui sont des dispositions, qui sont des choses intéressantes, mais qui ne sont pas des sciences et qui ne mènent pas à la sagesse. Alors, je voudrais consacrer maintenant philosophique à notre formation religieuse, à notre formation d'enfant de Dieu. Pour le chrétien, pour celui qui se consacre à Dieu, comme celui qui se consacre à Dieu demeure un chrétien, j'espère. Voyant ce que la philosophie apporte à celui qui se consacre à Dieu, je comprends aussi que la philosophie apporte quelque chose, et quelque chose de nécessaire dans le monde d'aujourd'hui aux chrétiens. Qui veut rester un chrétien intelligent? Parce que ça fait partie de la Saint, Seigneur, délivre-nous des chrétiens bêtes. Libéronos. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut être un chrétien intelligent. Un chrétien bête, il est sous les ténoirs. Là, il y a beaucoup de fumée. Il n'y a plus rien. En toi, monde d'aujourd'hui, étant donné que nous fréquentons constamment des incroyants, des athées. Vous savez ce que Merleau-Ponty, philosophe, dit, lui qui était chrétien, quand il était anormal, il était le président des Talas, ceux qui vont à la messe. Qu'est-ce qui est passé dans sa vie? Je n'en sais rien. Ou plus exactement, je soupçonne, mais de l'ordre de l'opinion. Il a perdu la foi. Du moins, il l'a dit. J'en suis pas sûr. Il a perdu la foi. Et il a été très dur. Quand il a été nommé au Collège de France, il a fait un discours qu'il faudrait tous lire. C'est un discours extrêmement intéressant. Parce qu'il était intelligent. Mais il n'était pas sage. Il était intelligent. Il n'en peut rien. Il a dû avoir dans sa vie des moments très difficiles. Et dans ce discours, il dit, parce qu'à ce moment-là, il y a eu toute une querelle. On ne voulait pas, vous voyez, que les temps sont changés. On ne voulait pas nommer au Collège de France quelqu'un qui faisait profession d'athéisme. Et alors, Merleau-Ponty, dans son discours inaugural au Collège de France, a dit, je ne suis pas un athée. grand Merleau-Ponty, le plus grand crime, c'est de savoir. C'est-à-dire, comprenez bien, normalement, celui qui sait, ça lui donne une avidité encore beaucoup plus grande d'aller plus loin. Ça éveille en lui le chercheur. Plus on connaît, plus on cherche. C'est ça que Merleau-Ponty n'a pas compris. Et qu'il a rencontré certains catholiques qui n'ont pas fait suffisamment la distinction entre l'ordre de la recherche et ce qu'est la foi. Saint Thomas nous dit, la foi est nécessaire pour découvrir, affirmer que la finalité de l'homme est la vision béatifique. C'est pour cela que la foi est nécessaire. La foi n'est pas nécessaire pour dire que Dieu existe. La foi n'est pas nécessaire pour connaître l'intelligence humaine. Que de fait, la foi nous aide souvent, oui, mais elle n'est pas nécessaire. La foi ne nous est pas donnée pour nous dire que nous sommes intelligents. La foi nous est donnée pour dire que nous sommes des fils bien-aimés du Père. C'est très important de voir pourquoi la foi existe. Oui, mais pour cela, il faut être intelligent et ne pas fourrer la foi partout. Et c'est ça que Merleau-Ponty ne supportait pas. Je n'aime pas de parler à un catholique parce qu'il sait. Non. Le catholique connaît mieux s'il est intelligent. Connaît mieux les limites de son intelligence. Catholique, mais il connaît mieux surtout la capacité de son intelligence qui est faite pour Dieu, pour découvrir Dieu. Capax Dei, c'est la définition d'intelligence de saint Thomas. L'intelligence est capable de découvrir l'existence de Dieu. C'est merveilleux, ça. Parce que ça met tout de suite une nouvelle relation. Une relation de mon intelligence humaine et de Dieu. La nécessité des études philosophiques. Si on est un moine, si on est un apôtre, si on veut être un chrétien conquérant, ami du Christ, si on veut être un chrétien qui porte le drapeau chrétien, c'est de comprendre que la foi nous montre la grande victoire de l'intelligence sur l'erreur, la découverte de la vérité, la découverte Dieu comme Père. Ce que certains philosophes ont réalisé, Aristote, dans les catalogues des œuvres d'Aristote, il y a un livre, Veritateo, un livre sur Dieu. Il a été perdu. Ça aurait été intéressant. Alors on n'a plus qu'un livre dans les métaphysiques qui est sur Dieu. Très peu de choses. Et quand même, Aristote a dit sur Dieu quelque chose qu'un chrétien peut répéter et comprendre. Dieu est la pensée de la pensée. Vous voyez ? terme de la philosophie d'Aristote est au point de départ de la philosophie hégélienne. Voyez, on ferait la philosophie uniquement pour comprendre cela. C'est capital. Puisque Hegel est à la philosophie contemporaine et à la théologie contemporaine ce que Aristote, au Moyen-Âge, était pour la philosophie et la théologie. On a dit ça, et c'est juste. Alors, on comprend toute la philosophie hegélienne quand on comprend cela. Hegel définit mon intelligence comme si j'étais Dieu. Alors vous comprenez, c'est difficile d'être croyant si je suis Dieu. Si je suis Dieu, je suis Dieu, écoutez-moi. Je ne vous dis que la vérité. Si vous voulez être intelligent, suivez-moi. C'est énorme. Mais en même temps, ça nous fait comprendre aussi quelque chose d'extraordinaire. L'avidité de l'intelligence d'atteindre la vérité. Si je suis Dieu, je suis la vérité. C'est merveilleux. Alors je ne vous dis pas que la philosophie que vous allez faire va aboutir à vous faire comprendre que vous êtes Dieu. Non, non, juste l'inverse. La philosophie réaliste montre que l'hégélianisme, c'est l'orgueil suprême de la philosophie. Aristote est humble en face de Hegel. C'est pour ça qu'Aristote est mon ami. Tandis que Hegel ne l'est pas. Parce que c'est insupportable d'avoir comme ami un orgueilleux. Peut-être que moralement, il n'est pas orgueilleux. Il est sincère. Vous voyez, Jean-Jacques dit « Regardez-moi, je suis l'homme. » Hegel dit « Regardez-moi, je suis Dieu. » Mon intelligence. Suivez-moi dans ma dialectique. Vous verrez que vous êtes l'absolu, vous êtes Dieu. C'est extraordinaire, ça. On est en face de ça. Comme Aristote était en face de Platon. Platon était terriblement séduisant. Tout venait de lui. Des idées. Inné. C'est ce que les stoïciens ont très bien compris quand ils définissent le philosophe nati sunt ut exemplar. Je suis philosophe, je suis né philosophe pour être cause exemplaire. Regardez-moi. Cause exemplaire de la vérité, c'est Dieu. Sont ou d'exemplar. C'est étonnant comme définition de la philosophie. Et je crois que Hegel peut dire ça aussi. Nati sont ou d'exemplar. Exemplar pour le théologien. Exemplar pour tous les hommes intelligents. Si vous ne faites pas une philosophie saine qui cherche la vérité, dans 10 ans, vous serez hegélien. Reste éducation chrétienne de Moyen-Âge. Maintenant, on est Dieu. On détrône Dieu. Voyez, l'habileté extraordinaire du père de la menthe, du mensonge, du démon. Non serviable, je ne servirai pas, je n'obéirai pas. Faut comprendre ça. Nous sommes au plan philosophique, en face de la philosophie hégélienne. Et la philosophie hégélienne est quelque chose de terrible par rapport à la recherche de la vérité. Nous sommes en présence d'une philosophie merleau-ponty, d'une philosophie, voyez, d'un idéalisme qui va tellement loin qu'on idéalise l'homme. Or, idéaliser l'homme, c'est le faire Dieu. Puisqu'on est intelligent, quelle différence y a-t-il entre Dieu et moi-même au point de vue de l'intelligence? C'est que l'intelligence de Dieu est première et substantielle. Dieu ne peut que se contenter. Avec l'intelligence de Dieu. Dieu est mon père dans l'intelligence. Il y a une parenté profonde, très radicale. On se rejoint. Cette image merveilleuse. On se touche. Et il y a quelque chose de divin dans mon intelligence. Aristote l'avait découvert. Je suis en parenté avec Dieu. Naturellement. Et tant que je ne l'ai pas découvert, je suis un errant. Et je serai malheureux parce que je n'ai pas découvert ma source. Et je reste dans le mensonge. Alors il y a deux grands mensonges. C'est m'identifier à l'intelligence de Dieu. Et se dire Dieu n'existe pas. Et on est en face des deux. Si je suis un tout petit peu conscient de ce que je suis dans le monde d'aujourd'hui, je vois ces deux grands obstacles. Ces deux grands obstacles. Je suis Dieu parce que mon intelligence a quelque chose de divin. Mon intelligence participe à l'intelligence de Dieu. Mon intelligence n'est pas l'intelligence de Dieu. Mais pour pouvoir dire ça, il faut avoir découvert Dieu premier et porter un jugement de sagesse sur mon intelligence. Je participe à l'intelligence de Dieu. Et puis l'autre, incipiens, dixit, in corde suo, non est Deus. C'est le psaume qu'on récite. Et on dit ça tout haut. Incipiens, l'insensé, dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Mais c'est l'insensé. Mais quand il dit Dieu n'existe pas, il se croit sage. Et il est insensé. Les deux grands obstacles à la vie chrétienne sont devant moi. Gog et Magog. Ceci m'oblige. Si je veux être un vrai chrétien, à saisir ces deux grands obstacles qui risquent toujours de me séduire. Répondre à ces deux grands obstacles pour mes frères qui n'ont pas le temps de faire de la philo. Mais celui qui veut être l'apôtre, qui veut être témoin du Christ, doit pouvoir, en face d'un homme intelligent qui l'interroge, lui répondre: où y a-t-il erreur dans le marxisme, dans l'hégélianisme? Oui, c'est la raison première majeure